Demain 7 novembre seront célébrés les 150 ans de la naissance de la plus populaire des femmes scientifiques. Et bien qu'elle soit née en Pologne, Marie Curie incarne la figure de la recherche française au point d'entrée au Panthéon en 1995. Et c'est dans ce lieu parisien où sont célébrées les grandes personnalités de l'histoire que va commencer demain une exposition consacrée à Marie Curie pour découvrir son parcours singulier de physicienne. C'est le dossier donc cet après-midi de La Tête au Carré avec mes invités dont Hélène Langevin-Joliot, la petite fille de Marie Curie. Et j'attendais maintenant vos messages et vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la découverte d'une nouvelle espèce de grand singe.
Oui, une espèce d'orang-outan baptisée Tapanuli, découverte en Indonésie et qui, selon ses découvreurs, est déjà en danger d'extinction. On en discute avec la primatologue Sabrina Krief.
Et c'est Fanny Bouillon qui réalise notre tête au carré préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, c'est donc demain le 150e anniversaire de Marie Curie et c'est le dossier de notre émission dans un instant avec mes invités que je salue, Hélène Langevin-Joliot, Renaud Huyn et Elisabeth Bouchot. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Hélène Langevin-Joliot, vous êtes donc la petite fille de Pierre et Marie Curie. Est-ce que vous avez suivi de près l'élaboration de cette exposition qui va démarrer au Panthéon? Comment ça se passe dans la famille alors quand on démarre un tel projet?
Eh bien, je n'ai pas suivi en détail la préparation de l'exposition. En fait, c'est la collaboration entre le groupe du Panthéon et le musée Curie qui a élaboré, conçu l'émission. Et j'ai toute confiance du résultat, d'ailleurs, sur lequel j'ai jeté un coup d'œil.
Quand même, voilà.
Après.
Renaud Huyn, qu'est-ce qui caractérise cet esprit Curie, justement, qui est au cœur de l'exposition?
C'est la passion pour la recherche, essentiellement. Je crois que c'est ce qui caractérise aussi Marie Curie.
Ouais, et qui a irrigué toute la famille, hein, on en discutera tout à l'heure. Elisabeth Bouchot, vous serez dans la peau de Marie Curie sur la scène du Théâtre de la Reine Blanche à partir du 16 novembre. Vous, physicienne, c'est un rôle tout à fait particulier donc, à tenir là. Hein.
Ah, c'est un rôle très impressionnant à tenir et je préfère me dire que je vais jouer le rôle d'une femme très travailleuse, passionnée par la science, mais qui a aussi des émotions humaines. Plutôt que de me dire je vais tenir le rôle de Marie Curie parce que sinon j'y arriverai pas.
Voilà. Et c'est cette facette hein, justement que vous allez montrer, on en parlera avec vous tout à l'heure. On va donc évoquer le parcours et la vie de Marie Curie et vous répondrez donc tous ensemble aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et les grands singes, ce groupe de primates le plus proche des humains, n'avait pas connu de nouvelle espèce depuis 1932. Et pourtant, la semaine dernière...
On a fait des analyses à plusieurs endroits. On les a étudiés et on a vu qu'ils étaient différents sur le plan génétique et morphologique, ainsi que sur leur mode de vie.
Voilà Ian Singleton, le directeur du programme de conservation des orang-outans de Sumatra, la semaine dernière, qui dévoilait ce qui, selon lui et son équipe, donc, est une nouvelle espèce de grand singe, un orang-outan vivant au nord de l'île de Sumatra en Indonésie. Et Axel, on en discute avec nos invités.
Oui, Mathieu, nous sommes en studio avec la primatologue Sabrina Krief. Bonjour. Krief, bonjour. Vous êtes primatologue donc au Muséum national d'histoire naturelle. On est aussi en studio avec Lorraine Lavocat, rédactrice pour le magazine Reporter, partenaire de La Une. Alors, Lorraine, parlez-nous un petit peu de ce nouveau orang-outan barbu, c'est ça hein?
Absolument, barbu, alors barbu pour les femelles hein, et moustachu pour les mâles.
Ah,
donc ça fait partie de ses caractéristiques. Donc son petit nom c'est Tapanuli, Pongo Tapanuliensis en latin. Et donc c'est un nouvel orang-outan. Donc Tapanuli ça vient de la forêt dans laquelle il habite, donc qui est dans le nord de l'île de Sumatra en Indonésie. Alors... jusqu'ici, il y avait deux espèces d'orang-outans qui étaient connues, hein, toutes les deux en Indonésie, à Bornéo et à Sumatra. Et donc, c'est une troisième espèce qui vient d'être découverte. Et donc, c'est une équipe internationale de chercheurs qui s'est rendue là-bas, qui a fait des travaux pendant plusieurs années et qui a publié donc le 2 novembre dernier dans la revue Current Biology, donc le résultat de ces découvertes, où ils décrivent un peu cette nouvelle espèce pour montrer comment il y a cette nouvelle découverte d'une espèce.
Alors Sabrina Krief, qu'est-ce qui différencie ce nouvel orang-outan des autres orang-outans qui vivent aussi sur l'île de Sumatra ?
Alors l'étude en fait porte sur des données morphologiques sur un crâne qui a été retrouvé par l'équipe de recherche. Il a été abattu en fait par les villageois. Et donc ils ont comparé tout particulièrement son crâne au crâne de 34 autres orang-outans adultes mâles, donc qui avaient à peu près le même âge. Et puis ils ont collecté des échantillons sanguins, ce qui est ajouté à une collection d'échantillons sanguins qui existait déjà d'orang-outans. Et ils ont comparé leur génome. Et sur cette base-là, ils ont déterminé que donc il y avait une population de 800 individus dans le sud de l'aire de distribution des orang-outans de Sumatra qui semblait être vraiment différente de la population du nord.
Les preuves dont vous parlez sont suffisantes pour parler vraiment d'une nouvelle espèce à proprement parler ?
Alors en fait, on pourrait se dire que l'échantillonnage est faible puisqu'on a un seul crâne et puis deux échantillons de sang en fait simplement qui ont servi à définir cette nouvelle espèce. Cependant, quand on regarde en préhistoire, souvent on décrit une espèce à partir aussi de restes de squelettes qui sont encore plus
petits parfois. Voilà. L'homme de Denisova par exemple, hein, on a un petit bout de dent uniquement. Ouais.
Exactement. Et puis la difficulté de collecter ces échantillons sur une espèce qui est extrêmement menacée, hein, puisque l'espèce, même avant qu'on décrive une troisième espèce, était décrite comme en danger critique d'extinction, fait que si on attend d'avoir 10 échantillons, 200 et 20 crânes, elle aura déjà disparu. Donc c'est vraiment une découverte importante et en tout cas une publication importante qui alerte aussi sur les dangers qui portent sur ces espèces d'orang-outans.
Et ces orang-outans sont vraiment isolés du reste des populations de l'île, que ce soit, j'ai envie de dire, en termes de géographie que de reproduction ?
Oui, exactement. Donc en fait, cette population compte 800 individus sur 1000 km² et est séparée de plus de 100 km de la population du nord de Sumatra, ce qui fait que les études génétiques montrent qu'il y a un isolement génétique depuis 10 à 20 000 ans. Le flux de gènes a diminué il y a 100 000 ans avec probablement l'éruption du lac Toba, qui est en fait ce grand lac qui différencie les deux populations. Et puis depuis 20 000 ans, il n'y a plus eu d'échange génétique. Donc plus de reproduction entre les deux espèces donc d'orang-outans de Sumatra.
Alors du coup, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a 800 individus. Finalement, c'est très peu. C'est une espèce qui, à peine découverte, pourrait en fait disparaître. Là, dans l'étude, il montre que, grosso modo, si 8 individus chaque année disparaissent, en quelques décennies, en fait, cette espèce qu'on vient de découvrir va disparaître tout simplement. En fait, quelles sont les menaces qui empiètent et qui pourraient...
Ouais, alors, ce taux de disparition, en plus, hein, ce déclin n'est pas du tout quelque chose qui serait irréel, hein, puisque on sait aujourd'hui que les menaces qui pèsent sur les orang-outans sont très très fortes. Donc, bien sûr, on connaît la déforestation avec les coupes à blanc pour planter des palmiers à huile, mais à côté de ça, il y a aussi du trafic de jeunes orang-outans. Et puis, dans cette zone tout particulièrement, il y a une menace qui est très très forte, celle de la construction d'un barrage hydroélectrique qui scindrait encore plus cette population de 800 individus entre un bloc est et un bloc ouest, avec une zone qui n'est pas protégée entre ces deux blocs. Et les chercheurs ont envie de pouvoir créer des corridors écologiques afin de permettre les flux de population entre les deux blocs. Et l'étude montre que déjà il y a une forte consanguinité au sein de cette population, même avec ces simplement deux échantillons de sang, on voit qu'il y a déjà de la consanguinité. Donc si cet échange n'est pas possible et à cause du barrage hydroélectrique, la population est encore plus fragmentée, les menaces sont extrêmement graves.
Sabrina Pieff, est-ce que cette étude, la création de cette nouvelle espèce, va aider à protéger ces 800 individus ?
Oui, on peut vraiment penser que c'est un moyen d'alerter la communauté internationale, tant les chercheurs que bien sûr les conservationnistes et l'UICN en particulier, pour faire pression, pour pouvoir avoir peut-être un moyen de freiner la construction de ce barrage électrique ou au moins de permettre des corridors.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un de ces orang-outans soit en captivité quelque part dans le monde ou c'est
on
peu
peut,
probable ?
On peut imaginer en fait qu'il y a un représentant de cette espèce, qui est plus de représentants de cette espèce, qui pourrait être échantillonné. En fait, jusqu'à présent, on parlait d'orang-outans de Sumatra, mais peut-être que, effectivement, et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont pu récupérer ces deux échantillons de sang, c'est en allant dans les sanctuaires, dans des populations captives, en fait, d'orang-outans, qu'ils ont réussi à avoir les échantillons de sang. Et puis, malgré tout, reste une menace qu'on ne connaît pas forcément encore bien, qui pèse sur les grands singes, que nous, on a montré, en fait, sur les chimpanzés, qui est celle qui est causée par l'agriculture, avec une exposition aux polluants, aux pesticides. Et en particulier, c'est tout à fait vrai aussi pour les orang-outans, qui vivent très proches de ces grandes palmeraies, qui utilisent des intrants chimiques qui peuvent être vraiment dangereux pour leur santé et pour leur survie.
Ça, c'est une étude que vous aviez faite en Ouganda, auprès d'une population de chimpanzés que vous suivez depuis longtemps, Sabrina Krief.
Voilà, donc nous on travaille à Sébitoli, dans le parc national de Kibale, et on a remarqué que 25% des chimpanzés avaient des malformations faciales, donc des narines réduites, des becs de lièvre, et on a montré qu'ils étaient exposés à des pesticides tels que donc les néonicotinoïdes, dont on parle beaucoup en ce moment, l'imidaclopride, le chlorpyrifos, le DDT, et donc on poursuit nos travaux pour essayer de montrer à quel point, en fait, et sur quel système, a priori c'est au niveau du système endocrinien que l'effet pourrait agir.
Comment se portent les deux autres espèces d'orang-outans, celle de Bornéo et celle du reste de l'île de Sumatra?
Pas beaucoup mieux, en fait. Donc, effectivement, il y a un nombre d'individus qui semble beaucoup plus grand, mais ça n'empêche pas que les populations sont fragmentées. Donc, à chaque fois, c'est des petits blocs de forêt qui sont pas interconnectés. La situation est aussi très alarmante. Hein. Aujourd'hui, les deux autres espèces d'orang-outans sont aussi déclarées comme en danger critique d'extinction, tout comme les gorilles de l'Est et de l'Ouest. Et puis, il y a certaines sous-espèces de chimpanzés aussi qui sont en danger critique. Si on regarde le nombre d'individus, par exemple, les gorilles de Cross River ne sont que 300 gorilles. Les gorilles de montagne ne sont que 900 individus. Donc, à chaque fois, c'est des toutes petites populations. Donc, il y a vraiment urgence à tirer la sonnette d'alarme pour tous ces grands singes.
Voilà, donc, nouvelle étonnante, hein, découverte d'une nouvelle espèce de primate, donc d'orang-outan. Ça n'avait pas été le cas depuis 1932. Et merci pour éclairage avec les bonobos, Sabrina Krief. Lorraine Lavocat, on retrouve ces infos bien sûr sur reporter.net dès demain avec toute votre rédaction. Merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la 23e conférence climat des Nations Unies, la COP23 qui s'ouvre aujourd'hui à Bonn, en Allemagne, pour définir le mode d'emploi de l'accord de Paris sur le climat. Une conférence tenue en Europe, mais présidée officiellement par les îles Fidji, mais trop petite pour accueillir les 19 000 participants et déjà bien ébranlés par le réchauffement global. Pendant deux semaines, donc, les délégations officielles de 195 pays vont débattre et négocier les règles visant à contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. Du sang jeune pour soigner les malades d'Alzheimer. La transfusion sanguine transgénérationnelle découverte chez la souris est très efficace justement chez cet animal. Vient d'être testée sur l'homme pour la première fois, mais les premiers résultats sont plutôt mitigés. Une start-up californienne dévoile donc ses premières données. 18 malades âgés de 54 à 86 ans ont reçu pendant 4 mois un sérum fait à partir du sang de jeunes donneurs volontaires de 18 ans. Les résultats sont donc loin d'être aussi flagrants que chez le rongeur, puisqu'aucune régénération tissulaire n'a été mesurée. Seulement de meilleure capacité à accomplir les tâches du quotidien chez les malades. Les chercheurs essayent maintenant de comprendre pourquoi ces différences si importantes existent entre le modèle animal et humain. Et puis pour terminer, le Canada ne sait plus comment sauver ses caribous. Alors que la population de caribous forestiers ne cesse de chuter, le gouvernement canadien assure dans son dernier rapport avoir fait sa part du travail pour tenter de sauver cet animal emblématique et s'en remet maintenant aux provinces pour fournir la suite des efforts. Les feux, l'exploitation des forêts boréales et la présence humaine sont les trois facteurs qui pèsent le plus sur l'espèce, et ces trois perturbations ont continué d'augmenter entre 2012 et 2015 malgré les efforts du gouvernement. L'association Greenpeace estime que si l'État et les provinces n'arrivent pas à travailler ensemble, le caribou forestier court vers une extinction certaine. Et c'est Marie Curie au cœur de notre dossier dans un instant. Summer info, then it came to me. It Came to Me avec The Bar Brothers à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et Marie Curie, donc, au cœur d'une exposition qui commence mercredi au Panthéon à l'occasion des 150 ans de la naissance de la physicienne. Et donc, à mes côtés, Hélène Langevin-Joliot, la petite fille de Pierre et Marie Curie. Vous êtes physicienne nucléaire. Renaud Huyn, vous êtes le directeur du musée Curie et commissaire de cette exposition. Marie, une femme au Panthéon. Et puis, Elisabeth Bouchot, vous êtes physicienne, directrice de recherche CEA et directrice du théâtre de la Reine Blanche. Et vous allez donc interpréter Marie Curie dans cette pièce, Le Paradoxe des Jumeaux, qui commence le 16 novembre. On va discuter justement de l'angle que vous avez choisi pour cette pièce dont vous êtes co-auteur. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Hélène Langevin-Joliot, c'est vous sur cette photo donc qui ouvre le livre consacré à votre grand-mère, Marie Curie, une femme dans son siècle. Où a été prise cette photo et quel âge avez-vous sur ce cliché exactement?
Oui, c'est une photo prise en 32. Effectivement, j'y suis. C'est la famille dans laquelle Marie Curie vit encore. Et oui. Je me permets de dire qu'une femme dans son siècle. Je crois que Marie, à travers ce qu'on trouve dans ce livre, peut nous dire beaucoup en étant dans son siècle. Ce qu'on oublie en pensant qu'elle est en avance. Et il faut sortir du mythe.
Oui. Pourquoi il faut sortir du mythe alors?
Elle
est trop mythifiée, Marie Curie.
Il faut lire ce qu'elle écrit elle-même.
Ouais. Elle a beaucoup écrit d'ailleurs. Hein.
Pas tellement, mais elle a écrit un certain nombre de phrases qui doivent ou peuvent faire réfléchir.
Oui. Je pensais à sa correspondance en fait, quand je disais qu'elle avait beaucoup écrit. Oui. Hein, Par contre, elle a beaucoup écrit. Hein,
elle est une femme de son siècle.
C'est ça.
Qui éventuellement écrit tous les jours.
C'est ça.
Et change tous les jours avec ses filles.
Ouais.
Mais. Vous voyez, dans le portrait de Marie dans son siècle, il y a toujours une phrase qui n'est pas de Marie, qui est de Pierre Curie. Mmh. Hein? Il voulait, il faut faire de la vie un rêve et du rêve une réalité. C'est un mot qui leur a servi à construire, tous les deux.
C'est vrai.
Dans ce qu'ils ont fait.
Et ils ont suivi cette idée tout au long de leur vie.
Jeune homme de 20 ans
et il a
qui
fallu
rêvait.
Il a fallu se battre et déployer beaucoup d'énergie parfois aussi pour défendre cette idée. Avec ce livre, donc, Marie Curie, dont on va parler, on va faire allusion évidemment beaucoup à ce document qui est sorti aux éditions Grunt et écrit par Marion Augustin, que vous avez justement préfacé, Hélène Langevin-Joliot. Renaud Huyn, il faut démystifier Marie Curie aujourd'hui ou pas?
Sans doute.
C'est mal parti avec une exposition au Panthéon quand même.
Pas tant que ça finalement, parce que c'est vrai que Marie Curie renvoie une image assez austère d'une femme auréolée de prix Nobel. Mm-hmm. Et l'exposition, on souhaite justement que le public puisse voir une autre facette de cette personnalité et la rendre un peu plus humaine. C'est non pas la démystifier, mais la rendre plus accessible.
Oui.
Parce qu'à travers son parcours, à travers son exemple, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer. Alors que si on est confronté à une image finalement assez austère, c'est plus difficile.
Ouais. Mais c'est vrai que les photos renvoient quand même cette image-là, Hélène Langevin-Joliot. C'est très difficile de trouver des photos où Marie Curie sourit, tout simplement. Hein. Vous en avez, vous, des documents?
Je crois que la plupart de ces photographies sont en fait des photographies
officielles.
De photographes.
Ouais.
Il y a quelques photographies qui sont prises comme dans une famille qui clique et on saisit quelqu'un. Elles sont souvent très belles, mais ce sont des photos posées et souvent après les événements.
Oui, c'est-à-dire à quels événements faites-vous allusion?
Par exemple, la découverte du radium. Mmh. Les photographies de Pierre et Marie Curie ne sont pas prises au moment de la découverte du radium.
Bien sûr.
Elles sont prises manifestement après. Mais je crois que c'est pas spécifique, cela, Marie Curie. Je suis presque sûr que si on regardait des portraits de l'époque, y compris les portraits de famille, vous verriez un peu la même solennité quand je dis une femme dans son siècle. Il faut on n'est pas en ce moment, vous voyez, en train de saisir juste l'expression. On n'est pas dans cette époque-là.
Elisabeth Bouchot, alors avec le paradoxe des jumeaux, hein, cette pièce qui va commencer donc au Théâtre de la Reine Blanche le 16 novembre, et ce rôle de Marie Curie que vous allez camper, aussi c'est une façon pour vous de donner un nouvel éclairage aussi à cette histoire.
Hein. Oui, tout à fait. Et on a eu aussi envie, donc avec mon co-auteur Jean-Louis Boer, parce que nous l'avons écrite à quatre mains, nous avons eu envie de, à travers l'image un peu austère, certainement due à l'époque qu'on voit sur les photographies, de rendre son humanité à ce personnage. Moi, je suis physicienne, comme vous le disiez tout à l'heure. On a malheureusement peu d'histoire des sciences, même quand on étudie la science. Mmh. Et pour moi, Marie Curie a toujours bien sûr suscité mon immense admiration pour la femme de science. Mais jusqu'au moment où j'ai lu, il y a quelques années, peut-être 7 ou 8 ans, la biographie que Françoise Giroux avait écrite d'elle, qui est la première chose que j'ai lue sur Marie Curie, eh bien, je n'avais pas envie de m'identifier à ce personnage, c'était impossible.
Ouais. On va écouter justement la voix de Françoise Giroux, parce qu'elle parle très très bien de Marie Curie, évidemment, personnage qui l'a beaucoup intéressée, et c'était en l'occurrence en 1982.
Comme tout le monde, j'avais d'elle une idée en image d'Épinal. Ce qui est certain, c'est qu'elle a aimé son mari, mais elle a aimé de passion Paul Langevin, ce qui a toujours été occulté. Ne fût-ce que parce qu'elle a souhaité que ce ne soit pas connu. Il faut remettre ça à l'époque où ça se passait. C'est aux environs des années 1908, 9, 10, 11. C'est en 1911 qu'il y a eu un immense scandale à ce sujet, qu'on l'a accusée d'être une voleuse de mari. Vous savez qu'elle était polonaise. C'est l'époque où on disait que ce sont ces étrangères qui arrivent à la Sorbonne pour détruire les beaux foyers français. Elle a connu une épreuve absolument épouvantable. Mais sa passion a été, je crois, incontestable pour Langevin, et pas seulement pour Langevin, sa passion pour la science et sa passion pour la nature. C'était une femme passionnée, au vrai sens du terme.
Voilà, François Giroux, donc, qui avait écrit le scénario de ce téléfilm, ensuite en trois parties pour la télévision, Marie Curie, une femme honorable. Et donc, Elisabeth Bouchaud, bah, c'est de cette histoire dont il est question aussi, hein, pour vous au théâtre, là.
C'est effectivement ce qui est central, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Langevin.
Ouais.
Et donc, pour nous, c'était important qu'on voit Marie Curie en femme amoureuse. Mais non seulement amoureuse de Paul Langevin, mais c'est tout ce qui est en miroir du paradoxe des jumeaux, amoureuse aussi, ayant aimé passionnément Pierre Curie.
Pierre Curie, voilà. Pierre et Paul. Hein.
C'est vraiment Pierre et Paul. On imagine, c'était difficile de se détacher de l'image de Pierre, qui était aussi un personnage extrêmement important pour Paul Langevin.
Alors justement, Hélène Langevin-Joliot, juste dans votre arbre généalogique, qui est Paul Langevin exactement? Et puis ensuite, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce parti pris-là de cette pièce de théâtre.
Bon, qui est Paul Langevin?
Par rapport
très
à vous.
Très grand physicien.
Par rapport à vous.
Moi, c'est le grand-père de mon mari.
Mm-hmm.
Bien. Oui, et c'est, comme vous venez de le dire, un élève de Pierre Curie. Très proche de Pierre Curie, et effectivement, il y a une parenté de réflexion entre l'un et l'autre, c'est tout à fait certain.
Ouais. Et alors cette affaire Langevin, 1911, le scandale qui éclate, parce que évidemment, Marie Curie a une aventure avec lui, après la mort de Pierre Curie.
Le scandale éclate aussi pour des raisons politiques diverses. Cette affaire-là n'aurait pas... sur lequel d'ailleurs la vérité exacte n'intéresse probablement pas grand monde, et sur lequel on peut avoir son avis ou pas son avis, ça se greffe dans une bataille politique dans l'histoire, dont ils vont être effectivement la victime dans cette phase précise de la vie de Marie Curie. Que ça m'agace un peu de temps en temps, je suis obligé de le dire, de voir considérer comme le centre de la ville de Marie Curie ce que ça n'a pas été de toute évidence.
Ouais.
Mais, bien, j'aime beaucoup la phrase de Françoise Giroux dans son livre. C'est ma vision de Marie Curie. Ça m'avait beaucoup plu parce que c'était, voilà. Voilà ce que je pense.
C'est ça. Et, chacun peut s'en emparer.
Chacun peut se construire.
Avec une figure comme celle de Marie Curie. Ouais.
À condition, et je le répète, de ne pas faire un mythe. C'est pour ça que je reviens à cette idée de ce livre qui m'a énormément plu comme idée quand elle m'a été soumise.
Ouais.
À savoir de faire une histoire, principalement en image, mais avec la filigrane de l'image, de l'histoire elle-même, placée dans son siècle et dans les documents. il y a très peu d'éléments de ce type qui sont sortis.
Et alors, Renaud Wynne, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, donc pour les 150 ans de la naissance de Marie Curie, on a la première grande exposition autour de cette figure incontournable de la science mondiale, quand même. Hein.
C'est vrai que c'est assez surprenant de voir que c'est pour la première fois une vraie exposition sur Marie Curie. Il y a eu énormément d'expositions sur panneaux ou d'expositions pédagogiques, mais une vraie exposition, et en l'occurrence au Panthéon, c'est inédit.
Ouais.
C'est vrai que c'est assez surprenant. Alors on en discutait avant l'émission, en effet, pour le 100e anniversaire de la naissance de Marie Curie, il y avait eu des événements, mais pas de la même ampleur. Et c'est sans doute aussi, là, encore une fois, pour rebondir sur ce que vient de dire Hélène, une question d'époque. C'est-à-dire qu'entre les années 60 et aujourd'hui, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens à la fois d'exposition et de communication.
Oui. Jean-Paul nous demande sur franceinter.fr comment la presse a traité Marie Curie. A-t-elle subi de la part des médias un ostracisme évident? Qui veut répondre à cette question, Renaud Wynne?
Alors c'était effectivement une sorte d'acharnement médiatique autour de sa personne.
Pendant combien de temps ça a duré finalement? Ça a été particulièrement visible pendant l'affaire Jean Langevin ou il y a eu d'autres moments?
Ça avait commencé avant, avec aussi la candidature de Marie Curie à l'Académie des sciences, où les journalistes s'étaient un petit peu acharnés sur à la fois ses origines étrangères, sur le fait qu'elle soit une femme.
Bien sûr.
Mais derrière tout ça, c'est aussi des considérations politiques. C'est vrai qu'elle avait comme adversaire Édouard Branly, qui représentait la France catholique bien pensante, anti-Dreyfusarde. Donc il y avait tous ces enjeux-là qui étaient déjà présents à la fin de l'année 1910-1911. Et c'est effectivement un acharnement assez violent contre Marie Curie, alors qu'on aurait pu, ou dû, plutôt attaquer Paul Langevin, d'une certaine manière. Puisque Marie Curie était veuve, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc c'est un événement assez complexe finalement dans son déroulement.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre dossier consacré donc à Marie Curie, l'occasion du démarrage de cette exposition demain au Panthéon.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froide maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. Jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, lui de paillettes et me réduit au chaos.
Fête de trop, Eddie de Préto.
La tête au carré.
Pour découvrir quelque chose, il faut savoir ce qu'on cherche, non? Je veux dire que pour formuler une hypothèse, il faut déjà bien concevoir une explication qui déborde la simple observation des phénomènes.
En somme, vous voulez savoir comment se forment les idées?
Oui.
C'est une question passionnante. Comme pour tout, Il faut avoir recours autant à l'intuition qu'à la raison. En fait, la plupart des découvertes scientifiques sont dues à un mélange de talent et de hasard. Un bon chercheur doit aimer l'aventure, ne pas avoir peur de sa propre audace, sans faillir évidemment à la méthode qu'il s'est donnée. Mais n'ayez crainte, il y a de l'aventurier en chacun de nous. J'aimerais que vous reteniez que votre liberté d'esprit est essentielle, que vous devez tout faire pour la préserver.
Voilà, extrait d'un film qui n'est pas encore sorti en France, mais en DVD, et qui a été tourné en 2016 par Marie-Noëlle Serre. C'est Marie Curie, à l'instant, pour évoquer justement les 150 ans de l'anniversaire de cette scientifique française qu'on ne présente plus, avec Hélène Langevin-Joliot, Renaud Huyn et Elisabeth Bouchot. Renaud Huyn, on le disait, il n'y a pas de très grands films encore non plus hein, autour de Marie Curie. Il y a eu des téléfilms à la télévision, mais personne n'a encore incarné une figure remarquable.
C'est un sujet et un personnage assez difficile à aborder.
Parce pourquoi que,
pour plusieurs raisons. D'une part, parce que son parcours est déjà très riche, qu'on peut partir dans plein de directions, et que finalement, peu d'auteurs sont allés vraiment chercher dans les textes, dans les écrits de Marie Curie, qui elle était vraiment. Et c'est souvent une interprétation d'auteur. Et c'est là où il y a parfois un petit décalage entre l'œuvre historique, scientifique de Marie Curie et l'œuvre de fiction qui est réalisée ensuite.
Hélène Langevin-Joliot, est-ce que c'est une façon aussi de contourner les difficultés que la science peut donner à un cinéaste parfois quand il veut tourner autour d'un personnage comme celui-là ?
Je crois que c'est pas facile pour un cinéaste et que, comme en général, la science est considérée comme quelque chose de pas très intéressant et très productif pour le grand public. Bon, les créations dans ce domaine ne sont pas très nombreuses, et peut-être faut des collaborations, je ne sais quoi, mais il faut qu'il y ait des scientifiques qui sentent un peu ce que c'est que la science. Aujourd'hui, Marie Curie a quand même, et ça est fait, on l'utilise beaucoup comme drapeau des femmes scientifiques.
C'est vrai.
C'est même pour ça, et je n'ai rien à dire sur le sujet, je ne peux qu'approuver qu'on parle de Marie Curie de plus en plus. Ça, c'est bien. Mais, très souvent, porté par ce fait, c'est le drapeau, alors on commence à mythifier les choses. Et un cinéaste ne peut rien faire avec un mythe, ça ne marche pas.
Et alors,
ça fera un mauvais film.
Et un auteur de théâtre.
Si vous voulez mon avis, ça fera un mauvais film. Alors on se réfugie dans des choses qui sont un peu moins classiques. Bon, mais qui ne sont pas Marie Curie non plus, même si on les comprend très bien.
Alors,
bon,
pour le théâtre.
Voilà la difficulté.
À mon avis, Elisabeth Bouchot.
Nous avons, je crois,
entre le mythe et.
Et la créativité aussi,
oui,
hein, la part d'interprétation.
Que je ne reproche à personne.
Elisabeth Bouchot, défendez votre travail d'auteur et de comédienne.
Absolument. C'est aussi notre vision. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas dire « je vais interpréter Marie Curie ». Je vais interpréter un personnage de théâtre qui, je l'espère, dont on verra, qu'il a certaines caractéristiques de Marie Curie. Une femme qui travaille tout le temps. Une femme qui est passionnée par la science. Et dans notre pièce, ce qui en général n'est pas le cas, on parle beaucoup de science. Parce que c'était quand même une époque, il faut le dire, absolument prodigieuse. C'était le début de la mécanique quantique, la découverte de la radioactivité, bien entendu, et aussi les débuts de la relativité. Et donc, on parle de relativité. D'ailleurs, le paradoxe des jumeaux est un paradoxe de relativité inventé par Paul Langevin. Donc on parle, il y a toute une scène d'échange sur le paradoxe des jumeaux qui, j'espère, je pense savoir qu'elle ne contient pas d'erreur scientifique, mais je pense qu'elle devrait aussi être amusante et intéressante. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer comment, simplement en discutant, tout d'un coup, en discutant avec quelqu'un qui ne trouve pas la solution pour vous, mais vous pouvez vous l'entrevoir, alors qu'en y réfléchissant tout seul dans votre coin, vous ne voyez jamais la solution. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. On parle bien sûr de la découverte de la radioactivité, de la bataille pour que le Curie soit l'unité reconnue de radioactivité. On parle de ce contexte scientifique.
Donc Hélène Langevin-Joliot, il faut absolument aller voir la pièce, là, hein, à partir du 16, pour pouvoir juger.
Nous espérons beaucoup, beaucoup.
Pour pouvoir juger du travail fait par ces...
Voilà une bonne plaidoirie.
Oui, c'est pas mal. Elle est assez convaincante. Et puis c'est vrai que le théâtre de la Reine Blanche, dont le caractère principal est de parler de science, n'a pas peur de se frotter à ce type de sujet. Quand
absolument.
Même,
hein. Mais c'est sa vocation.
Concrètement, je reviens à l'idée, voir Marie Curie vraiment dans sa vie. Marie Curie, par exemple, avant la guerre de 14 et Marie Curie après la guerre de 14. Oui. Il s'est passé quelque chose. Je reviens au livre et ce qui est montré là-dessus. Je ne dirais pas qu'on la voit se transformer, sortir de son milieu, c'est aller vrai. Dans un
au
autre...
Au service des autres.
Oui, hein. Mais... En même temps, j'allais dire, elle sort de ce milieu d'amis et de scientifiques relativement étroits pour aller vers un milieu bon, où il y a tout le monde, puisqu'il y a les soldats soignés, etc. Il y a les médecins. Et ça lui donnera, je dirais, la force, la manière d'attaquer de nouveaux problèmes, je dirais... en sachant se servir de sa célébrité.
Et en allant
sur
le terrain.
Chose qu'elle ne savait certainement pas faire avant.
Ouais.
Autrement dit, je reviens encore sur le livre, quand vous voyez ça, vous voyez par étapes, c'est pas Marie Curie, point Marie Curie, qui est là en Pologne. Elle va en France. Pourquoi elle va en France ? Dans l'esprit, la femme scientifique, la course à l'excellence, etc. On la voit... persuadée, il faut faire de la science, etc. Pas du tout. La petite Maria Sklodowska ne peut pas effectivement aller à l'université à Varsovie puisque c'est fermé aux femmes.
Voilà. Et la Sorbonne le permet.
Elle va en France apprendre les mathématiques, la physique, etc. Pourquoi faire ? Pour retourner en Pologne enseigner aux autres.
Ouais.
C'est Pierre Curie qui arrive à la convaincre avec des lettres qui sont... très romantique. Ça, ça exprime cette espèce de couple renversé dans lequel, j'allais dire, le rêve est plutôt du côté de l'homme et l'organisation et la force du côté de la femme. Bon, ben, c'est plus la même chose 10 ans après, quand elle a des responsabilités.
Renaud Huyne, on voit tout ça donc dans l'exposition. C'est simple, au fond, de représenter un tel destin. Tellement il y a de documents, de photographies, de textes aussi.
Alors c'est assez complexe, c'est ce que fait très bien le livre et c'est ce que fait d'une autre manière une exposition. Ce qu'on a voulu montrer, c'est effectivement ces très belles lettres de Pierre Curie. Et justement, je profite de l'occasion pour dire que c'est effectivement une exposition sur Marie Curie et c'est peut-être l'occasion de parler de Pierre. Parce que c'est vrai que l'un sans l'autre n'aurait abouti à rien, en tout cas pas de la même manière. Donc on rappelle effectivement cette relation très particulière qu'elle a entretenue avec Pierre Curie, à la fois au moment de la rencontre, mais également après, au moment de son décès. Et comme disait Hélène, il y a plusieurs Marie Curie. C'est vrai qu'entre Maria Sklodowska, telle qu'elle naît, telle qu'elle voit le jour à Varsovie, et Marie Curie telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a eu plusieurs passages et plusieurs périodes.
Georges nous dit, polonaise, étrangère, scientifique, femme libre, indépendante, avait-elle tout contre elle ? En tout cas, elle a fait preuve d'une résistance sans faille, nous dit Georges dans ce message. Qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth Bouchaud ?
Oui, je pense qu'elle a eu énormément de courage. Et en particulier, à un moment, pour ne citer que celui-là, parce qu'on pourrait évidemment en citer beaucoup d'autres, dont les petites Curie, la guerre de 14...
Qu'est-ce que c'est que les petites Curie ?
Les petites Curie sont des automobiles qu'elle s'est fait donner et qu'elle a transformées en cabines à rayons X pour pouvoir radiographier les blessés de la guerre de 14. Et donc, elle a fait preuve d'un courage inouï. Ce qu'on montre, nous, dans la pièce, c'est que le scandale ayant atteint les journaux scientifiques suédois en particulier, alors qu'on devait lui attribuer le prix Nobel de chimie, Svante Arrhenius, qui est un éminent chimiste suédois qui avait beaucoup d'admiration pour le travail de Marie Curie, lui a demandé de ne pas venir chercher son prix. Eh bien, elle lui a répondu et elle y est allée.
On va écouter justement, toujours extrait du film Marie Curie, ce passage précis que vous venez de décrire.
Vous avez mis l'Académie suédoise dans un sacré embarras. Nous avons préparé une déclaration pour annoncer que vous renoncez au prix Nobel qu'elle vous a attribué, au moins jusqu'à ce que l'affaire Langevin soit clarifiée. Ce sera pour tous la plus élégante des solutions.
Ce prix m'a été décerné pour la découverte du radium. Les compétences scientifiques d'un chercheur n'ont rien à voir avec sa vie privée.
Depuis des semaines, la presse européenne n'a d'autre sujet que votre défaillance morale.
Parce que je suis une femme. Si vous voulez exclure tous les chercheurs hommes qui ont une liaison... Vous n'allez plus avoir grand monde qui attribuait le Nobel.
Puisque je ne peux pas compter sur votre compréhension, et vu l'ampleur du scandale, je me vois contraint de vous interdire tout voyage à Stockholm.
Voilà, et ça s'est passé au travers d'une lettre, hein, cette demande de retrait de Marie Curie sur l'obtention de son prix Nobel.
Ouais.
Et donc ça a été un moment de ténacité.
Oui, avec la fin de l'histoire, en fait.
Et 1911, c'était donc son second Nobel en solo, Nobel de chimie, pour avoir identifié donc les nouveaux éléments, le radium et le polonium. Elle a tenu tête, elle a bien fait, elle n'a pas cédé à la pression au cœur de cette affaire Langevin.
Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est la seule personne jusqu'à aujourd'hui qui ait deux prix Nobel dans deux disciplines de sciences dures différentes.
Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion autour de Marie Curie.
Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi. C'est le chant du silo qui subit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuches
et surtout des pochons solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette.
Mangez-moi.
C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Au toit tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Tiens, voilà un mégot de pétard,
ça doit être un très bon chant.
Et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là, c'est sûr, il est connu. Putain, franchement, comment veux-tu? Maintenant, il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi.
Petit souvenir des années 90 avec Billy the Kick et Mangez-moi.
La tête au carré. Sur France Inter.
Hélène Langevin-Joliot, petite fille de Pierre et Marie Curie, avec nous en studio, Renaud Huyn, pour cette exposition Marie, une femme au Panthéon, qui commence donc demain, et puis Elisabeth Bouchot pour cette pièce, Le paradoxe des jumeaux, à partir du 16 novembre, au Théâtre de la Reine Blanche à Paris, et les questions des auditeurs autour de Marie Curie. Hélène Langevin-Joliot, vous me disiez tout à l'heure, on n'a jamais parlé autant de Marie Curie aujourd'hui, c'est vrai ça vraiment?
Absolument, on n'en a jamais parlé autant.
Ouais.
Et je crois que c'est venu avec le mouvement de prise de conscience de la place des femmes dans la science et des discriminations qu'elles avaient à surmonter. Donc, elle sert de porte-drapeau.
C'est vrai.
La première femme qui... On lui attribue d'être la première femme de ceci, la première femme ici et là.
Ouais.
Ça n'est pas toujours exact. Disons, ce sont quelques simplifications... pour faciliter, pour que le drapeau soit plus clair.
Cela dit, ça a quand même été la première femme à avoir un Nobel, Renaud Huyn, en avoir deux, à être entrée au Panthéon aussi.
Oui, mais ce sont quand même, dès 1903, les comités Nobel s'étaient battus pour savoir si la radioactivité, c'était de la physique ou c'était de la chimie.
Mm-hmm.
Bon, en fait, il y a eu un compromis pour régler une partie de la physique dans le premier prix Nobel et une autre partie dans le second. Que voulez-vous ? C'est quand même un peu particulier.
Renaud Huyn.
Ça ne change rien au mérite, mais il ne faut pas exagérer.
Donc figure ultra-moderne finalement de la science, Marie Curie ?
Figure ultra-moderne, je pense comme Hélène qu'il faut la revoir dans son siècle, Mais effectivement, c'est depuis le Panthéon en 1995, quand Mitterrand a souhaité rendre hommage à Marie Curie, c'est vrai que c'est le second événement un peu important autour
mais
de la personne.
Est-ce que
Marie Curie,
d'une certaine manière, ça n'est pas un peu triste aussi de n'avoir aujourd'hui que Marie Curie comme symbole de la femme scientifique et de n'avoir que ce visage-là quand même?
Oui, je crois qu'il n'y a pas un effort suffisant, je dirais, pour démultiplier les choses. On se tourne vers nous, on va donner le nom de Marie Curie à ceci ou à cela. Parfois, nous sommes très gênés, parce que, par exemple, oui, ça devrait être Pierre et Marie Curie. C'est Marie Curie. Et faire comprendre que, ou bien ça peut être Pierre et Marie Curie, ou bien il faut chercher une autre femme scientifique.
Mais c'est ça, surtout.
Et on ne le fait pas.
Élisabeth Bouchot, c'est quand même incroyable, parce que très difficile quand on demande aux gens de citer des femmes scientifiques, c'est-à-dire qu'en dehors de Marie Curie, aucun nom ne vient spontanément quand même.
Aucun nom ne vient de scientifiques, à part Albert Einstein et Marie Curie, pour la plupart des gens.
Oui, c'est ça.
Il n'y a aucun autre nom de scientifique. Donc bien sûr, je crois qu'il y a un travail à faire sur les femmes scientifiques, et il y en a qui mériteraient qu'on leur consacre du temps et des efforts. Et
Marie Curie serait certainement d'accord pour laisser un peu de place aussi aux autres dans ce contexte.
Je reviens à Marie dans son siècle, dans ce livre. L'effort a été fait de montrer le milieu autour, de montrer son laboratoire, les gens qui y travaillent, le nombre de femmes qui y a. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout un ensemble qui fait avancer la science. C'est pas Marie Curie toute seule, certes, elle a des mérites très importants, mais ça n'efface pas. Donc, ça, il faut le remettre. Il est temps de se remettre à l'histoire, et elle est belle.
Renaud Huyne, Patrice nous dit, Marie Curie avait-elle l'idée que les radiations pourraient tôt ou tard être utilisées comme armes? Avait-elle pris la mesure de la dangerosité tout en passant outre?
Alors, il y a deux questions dans votre question. Prendre la mesure de la dangerosité, sans doute, mais l'imaginer en tant qu'arme, non. Puisque là, on a un problème de période. C'est-à-dire que l'arme atomique est venue bien plus tard. Là, on parlait de radioactivité, on s'intéressait à un phénomène. Pour faire progresser les connaissances, les applications sont venues ensuite.
Quelle était la tendance politique de Marie Curie, demande Catherine, face au communisme, face à l'antisémitisme grandissant en Europe, Élisabeth Bouchot?
C'était une femme qu'on dirait plutôt à gauche. Les milieux scientifiques avaient été plutôt Dreyfusards, et d'ailleurs ça a été en partie à l'origine du scandale Langevin. L'extrême droite a voulu se venger des milieux scientifiques qui avaient soutenu le capitaine Dreyfus.
Ouais. Et Hélène Langevin-Joliot, Marie Curie, une femme de gauche? Sans conteste.
Oui, mais vous voyez, en le disant comme ça, on voit la femme de gauche d'aujourd'hui. Encore que, bon, ça n'est pas ça. Il faut revenir. Quel problème elle fait face et comment? Bon, c'est vrai que, par exemple, sur le vote des femmes, il faut qu'un député ait le malheur de dire, malheur pour le député, que même Marie Curie était contre le vote des femmes pour qu'elle proteste dans les journaux. Elle n'avait pas eu l'occasion, elle n'était pas. La femme de gauche ne s'était pas exprimée avant qu'on la force à dire qu'on lui prêtait une position qui n'était pas la sienne. Donc, vous voyez,
c'est une façon de la provoquer.
On n'est pas dans cette période où tout est dans tout le temps, où vous entendez, où on extrait les idées fausses ou vraies de tout un chacun.
Et d'un contexte.
En les faisant circuler, vous ne savez pas à quoi elles ressemblent quand elles reviennent.
Était-elle féministe avant l'heure, demande Paul dans son message.
Pardon?
Était-elle féministe avant l'heure, Marie Curie?
Je dis toujours là-dessus, sur le fond, elle était fondamentalement féministe. Considérait que les capacités d'une femme étaient parfaitement égales à celles des hommes au niveau intellectuel. Il n'y avait pas l'ombre d'une hésitation sur ce point. Je ne dirais pas qu'elle était une féministe, comme on dit de quelqu'un qui est féministe aujourd'hui. Elle a été, et elle est, ce que j'appelle une féministe par l'exemple. Et j'ajouterais, une féministe n'isolant pas la science de la vie en général. Je donne cet exemple, au moment de la découverte polonium-radium, les curies qui ont découvert une chose, qui savent qu'il y en a une deuxième à découvrir, eh bien, ils partent en vacances pendant 2 mois.
Ah oui, c'est vrai,
avec
leurs petites filles. On ferait pas ça aujourd'hui. Oui.
Eh bien, bon, quand vous dites ça aujourd'hui, on dit, mais enfin quoi ? Donc, oui, féministe par l'exemple, convaincu que la science et la vie de famille, c'est possible, et il n'y a qu'à lire l'échange de lettres entre elle et ses filles, et ce qu'on voit dans le livre actuel d'eux-mêmes, on se rend compte que c'est ça dans son ensemble. C'est pas la course à « je veux être le premier », etc. C'est « j'ai donné » sa phrase, « j'ai donné beaucoup de temps à la science parce que j'aimais la recherche
». Ouais. Est-ce qu'elle a donné beaucoup de temps à sa famille ?
Elle a donné beaucoup plus de temps qu'on croit à sa famille. À certains moments, c'est tout à fait évident qu'elle a été très accaparée par son travail et les épreuves qu'elle a subies. Elle était aussi dans des conditions très différentes. À l'époque, avoir une aide à la maison, ça ne coûtait rien. Quasiment rien. Autrement dit, une famille de scientifiques
pouvait travailler
comme les Curie,
pouvait travailler
très très modeste au point de vue financier au départ, avait une aide à la maison. Bon,
Renaud-Huyne, puisqu'il nous reste une minute pour donner envie aux gens qui vont passer par Paris d'aller au Panthéon, quels sont les objets, les documents dont vous êtes le plus fier et qu'on peut découvrir dans cette exposition ?
Écoutez, moi j'ai été très ému de voir l'original du prix Nobel de physique de 1903. Je ne l'avais jamais vu autrement que derrière un écran d'ordinateur. Les carnets de laboratoire également, contenus Pierre et Marie Curie, sont des documents précieux. Et puis les albums de famille qu'Hélène a bien voulu nous prêter, où on voit effectivement une photo de Marie Curie avec un beau sourire, où elle notait aussi les premières syllabes de ses enfants, comme le font toutes les mamans.
Donc le sourire de Marie Curie, c'est au Panthéon à partir de demain pour cette grande exposition à voir jusqu'au 4 mars prochain. Et puis sur la scène du Théâtre de la Reine Blanche, ce sera à partir du 16 novembre jusqu'au 28 décembre, le paradoxe des jumeaux que vous co-signez Elisabeth Bouchaud, mise en scène par Bernadette Le Sachet. Et vous jouez, vous campez donc ce rôle de Marie Curie.
Et je suis entourée par deux merveilleux comédiens, Sabine Audepin et Karine Kadjar.
Et puis ce livre dont on a beaucoup parlé tout au long de l'émission, Marie Curie, une femme dans son siècle, aux éditions Grune, que l'on doit donc au travail de Marion Augustin. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà, ainsi s'achève cette Tête au Carré aujourd'hui. Demain, deux astrophysiciens pour nous parler du cosmos et de la nuit. Ce sera Trinh San Tuan et Hubert Reeves, qui sortent tous deux des ouvrages. Ils viendront donc en discuter demain à ce micro.